Et je vous propose qu'on prie pour commencer. Seigneur, on est toujours heureux d'être dans ta présence et on est heureux de pouvoir ouvrir la Bible. On est heureux de le faire en toute liberté et on pense une nouvelle fois à ceux qui se cachent, à ceux qui ne peuvent pas publier tout ce que tu fais pour eux de manière libre. Nous, on peut le faire et c'est ce qu'on veut faire encore ce matin, t'écouter, entendre ta voix. Seigneur, que tu me diriges dans ce témoignage, que vraiment ce soit toi qui sois vu et qui soit apprécié, qui soit glorifié, qui soit encore plus, qui grandisse dans le cœur de chacune des personnes qui sont présentes ici. Seigneur, que ton esprit agisse avec puissance et sans entrave dans cette assemblée, que nous ressortions tous édifiés. Je te prie aussi pour les enfants, que vraiment tu diriges tout ce qui va se passer et que eux aussi puissent apprendre à mieux te connaître. On te remercie pour tout ce que tu vas faire, pour tout ce que tu as déjà fait. En Jésus-Christ, amen. Alors, je vous propose de faire de la manière suivante, de commencer d'abord par vous présenter peut-être un peu l'Angola. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'Africains ici, donc la géographie de l'Afrique, ça va vous maîtriser. Cette présentation, je l'ai faite aussi dans des églises où la majorité était française. Et donc, quand on dit à un Français l'Angola, il ne sait même pas sur quel continent ça se situe. Bon, pour la plupart, vous savez. Donc, simplement, je reviens tout au début, si ça veut bien. Donc, vous ne voyez peut-être pas beaucoup, mais sachez que c'est un miracle déjà qu'on ait un vidéoprojecteur, parce que c'est celui de Michael. Et jusqu'au dernier moment, il y a eu des petits problèmes. Donc, ça va juste servir d'appui. Et si vraiment vous ne voyez pas et que vous êtes frustré, il y a toujours des places devant. Tout à l'heure, je disais, les élèves s'assoient toujours au fond en classe, parce qu'ils savent qu'ils risquent quelque chose de croiser le regard du prof. Mais à l'église, on ne risque rien. On peut s'asseoir au premier rang, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, Bibiche le fait chaque semaine et je remercie qu'il y ait quelqu'un qui s'assoit au premier rang. En tout cas, donc juste pour vous situer un petit peu le pays, ça c'est donc l'Angola comme vous voyez, ça se situe dans la partie sud de l'Afrique. Les voisins, c'est la Namibie, le Congo Kinshasa, la Zambie et puis un petit peu le Congo Brazzaville avec l'enclave de Cabinda. Donc comme vous voyez, c'est un pays qui fait deux fois la France. Donc un pays qui est très très grand, mais qui est trois fois moins peuplé que la France, puisqu'il fait 24 millions d'habitants. Donc un pays qui est très très peu peuplé. Ça s'est dû en particulier avec l'histoire, puisque beaucoup des esclaves qui ont été déportés en Amérique venaient de ce pays-là, de l'Angola. Les langues officielles, c'est la langue officielle, c'est le portugais, puisque ça a été une colonie portugaise jusqu'en 1975. Mais comme dans beaucoup des pays d'Afrique, donc ça c'est pour les Africains, ça vous savez, il y a énormément de langues en fonction des différentes ethnies qui sont dans ce pays. Donc là, je vous ai mis les plus parlées, le Umbundu, le Kimbundu, le Kikongo, le Tchokwe, mais bon, il y en a énormément. Et si vous voyez un petit peu la carte de l'Angola, vous avez donc la capitale qui se situe plus vers le nord. Et ensuite, comme grande ville, vous avez Benguela, Lubango, donc là déjà plus dans la partie centrale et sud. Et ça, c'est l'Angola. Alors l'Angola, c'est un pays qui est riche. J'ai mis riche entre guillemets, parce que c'est un pays riche dans le sous-sol, où il y a énormément de richesses, il y a du diamant, il y a du pétrole. Mais malheureusement, ce n'est pas la majorité de la population qui en bénéficie. C'est même une petite minorité qui en bénéficie. Donc toute ressemblance avec d'autres pays africains n'est pas que fortuite. Et j'ai mis c'est un pays stable, entre guillemets. Parce que c'est stable, puisque c'est le même président qui est au pouvoir depuis 1979, qui a survécu à des élections démocratiques, et donc qui, l'an prochain, remet en jeu sa couronne en 2017. Donc, ça, je l'ai écrit l'an dernier, en fait. Mais sachez qu'en ce moment, ça ne va pas très bien en Angola, parce que d'abord, c'est un pays qui est fondé sur le pétrole. Et si vous avez suivi un petit peu, le pétrole s'est complètement effondré. Donc pour nous, en Europe, c'est super. Mais pour les pays qui vivaient du pétrole, c'est la catastrophe. Et l'Angola connaît une inflation énorme. Donc, quand j'y suis retourné cette année, on m'a dit que la criminalité a énormément augmenté. L'inflation est telle que, en fait, ça rend difficile le commerce avec les pays voisins. Et comme l'Angola s'approvisionnait aussi chez les voisins, il y a des problèmes au niveau simplement pour se fournir en nourriture de base. Et puis au niveau de la stabilité, les Angolais, en tout cas, quand j'ai testé pour savoir comment ils se préparaient pour 2017, les élections, bon, je pense qu'ils n'attendent pas énormément des élections, mais surtout ils ont peur de la violence. Ils ne pensent pas avant les élections, il n'y aura pas de violence, mais une fois que le pouvoir sera rétabli par les élections, il risque d'y avoir des règlements de compte peut-être après. Donc, C'est un pays qui est riche et stable, mais pas tant que ça, en fait, si on gratte un petit peu. Et c'est un pays qui a connu une guerre civile très longue. Donc d'abord, ils ont lutté contre les Portugais pendant 14 ans pour avoir leur indépendance. Et après, ils se sont divisés entre parti plutôt communiste et parti plutôt capitaliste pendant, vous voyez ici, presque 30 ans, 27 ans. Donc ça veut dire que c'est un pays qui a été 50 ans en guerre et qui ne l'est plus depuis 2002. Ça, c'est pour... ça, c'est des photos, mais vous voyez quasiment rien. Pour vous montrer que c'est un pays qui est très, très contrasté et qui est très beau. Et ça, c'est ce que je dis aux Angolais à chaque fois. Vous avez vraiment un très beau pays. Un pays où il y a des montagnes qui très, très hautes. Donc, par exemple, tout en haut, là, c'est 2300 mètres d'altitude. Donc, pour les Africains, c'est très froid. Il peut même faire jusqu'à 15 degrés la nuit. C'est froid. Donc... C'est très froid. Mais pour un Européen, c'est vraiment le climat idéal. Et donc, il y a beaucoup de troupeaux. Donc ça, c'est une région du sud de l'Angola. Et la même, un tout petit peu plus loin, au bord de mer, vous avez le désert du Namib, qui couvre aussi la Namibie, qui a le même nom, qui est une zone totalement désertique. Donc c'est un paysage très, très varié. Au niveau de... Ça, c'est Luanda. Donc ça aussi, c'est pour vous montrer les contrastes. Vous avez... une ville qui est très peuplée, avec des infrastructures qui ne sont pas développées dans tous les quartiers. Et donc, pour ceux qui connaissent la réalité africaine, je pense que c'est un peu partout pareil. Vous avez des quartiers vitrines. Donc là, en bas, vous avez ce qu'ils appellent la marginale. En portugais, ça veut dire le quai de Luanda, avec l'ancienne ville portugaise, où ils ont refait tous les bâtiments, où ils ont... fait même des voies, des pistes cyclables, des pistes pour les rollers, etc., etc. Sachez qu'ils voulaient faire, ils disaient que l'Angola allait être le Dubaï de l'Afrique. Donc c'est pour ça que vous avez plein de gratte-ciels qui ont commencé à être construits grâce au pétrole. Et vous avez les Chinois aussi qui sont très très présents et qui construisent ces nouveaux logements que vous voyez en haut complètement à droite. Des appartements qui coûtent beaucoup, beaucoup plus cher que les prix français. Luanda est la capitale la plus chère du monde. C'est une des capitales les plus chères du monde. Les prix sont supérieurs à ceux de Paris. Mais à côté de ça, vous avez aussi des quartiers où, bien sûr, vous n'avez pas les infrastructures minimales. Problème de, notamment pendant la saison des pluies, que vous voyez complètement en bas à gauche. Moi, à chaque fois que j'y vais maintenant, la première année, j'étais allé en mai. C'était la fin de la saison des pluies, donc je n'avais pas trop souffert de ça. Mais chaque fois, maintenant, j'y vais en juin parce que c'est la saison sèche et on peut se déplacer comme on veut, ce n'est pas un problème. Bon, ça, c'était pour vous situer un petit peu l'Angola. Deuxième chose qui me paraît importante, c'est le christianisme en Angola. Parce que pour comprendre une situation dans un pays, c'est important de voir comment c'est arrivé. Alors, le christianisme, il est arrivé avec les Portugais, qui, en 1491, ont amené des groupes de missionnaires jésuites dans ce qui était alors, qui n'était pas l'Angola, mais qui était le royaume du Congo. Donc le royaume du Congo, ça couvrait le nord de l'Angola, mais aussi le Congo, une partie du Congo Kinshasa et Congo Brazzaville. Et donc ce roi s'est converti au catholicisme. Donc vous avez une série de rois africains catholiques, vous avez même les premiers évêques noirs, venait de ce royaume du Congo. Mais malheureusement, vu que le catholicisme ne s'est pas implanté profondément et qu'en plus les Portugais ont déporté plein d'esclaves, le christianisme a été laissé à l'abandon, puisque ce qui intéressait les Portugais, c'était plus finalement d'avoir des esclaves que d'avoir des frères chrétiens, entre guillemets. Donc, il y a eu une période un peu d'abandon. Les rois qui s'étaient convertis au catholicisme ont abandonné ensuite, par la suite, et sont revenus au paganisme. Et c'est lors de la deuxième phase de la colonisation que les premiers missionnaires protestants sont arrivés. Donc, c'était la mission baptiste anglaise qui est arrivée dans le nord de l'Angola. Et donc le christianisme s'est beaucoup implanté. Alors sachez que les Portugais n'ont jamais facilité la tâche aux missionnaires protestants, puisque eux, ils étaient catholiques et qu'ils étaient dans un régime officiellement très catholique, une dictature. Donc les protestants avaient interdiction de rentrer dans les villes où il y avait des colons, mais on leur laissait la brousse, parce que, bon, ils avaient qu'à s'occuper de la brousse. La brousse, ça n'intéressait pas tellement les Portugais, à condition qu'on ne fasse pas des gens de la brousse, des gens trop intelligents, mais sinon, ils pouvaient s'occuper de la brousse. Alors, les protestants ont fait de cette manière-là une chose qui est, à mon avis, qui est à la fois bonne, qui était une stratégie bonne, et qui a eu des effets malheureusement négatifs. C'est que pour ne pas... Vous savez que les protestants sont divisés en plein d'églises, Et donc, pour ne pas amener les divisions protestantes en Angola, ils ont décidé, on ne va pas se marcher sur les pieds. Chaque mission protestante va s'occuper d'un peuple. Donc, par exemple, les baptistes se sont implantés au nord avec le peuple Bakongo. Les méthodistes se sont implantés dans la zone centrale avec le peuple Mbundu. Les réformés complètement au sud, les assemblées de frères complètement à l'est. Donc, ce qui est bien, c'est que ça n'a pas créé de division, effectivement. L'effet négatif, c'est qu'aujourd'hui, les églises sont parfois des églises ethniques. C'est-à-dire, si vous êtes Bakongo, vous êtes automatiquement baptiste, sans réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire d'être baptiste, mais par pure tradition. Et donc, les églises ont un peu du mal à un peu peut-être sortir un peu de ça. Ceci dit, vu qu'il y a eu la guerre civile, les gens se sont énormément déplacés. Il y a beaucoup de gens qui ont fui l'Angola, qui ont rencontré le Seigneur, d'ailleurs, j'en reparlerai, en dehors de l'Angola, souvent au Congo-Kinshasa, et qui sont revenus et qui ont amené l'Évangile de nouveau. Et puis les ethnies ont commencé à se mélanger beaucoup plus. Sachez que c'était un régime marxiste jusqu'en 1992, en gros. Donc les chrétiens ont subi des persécutions aussi en Angola, dans les zones contrôlées par le gouvernement. Donc ça donne quoi aujourd'hui ? Ben, c'est un pays officiellement chrétien, même plus chrétien que la France, je dirais, puisque vous avez 90% des personnes qui se déclarent chrétiennes, dont en gros la moitié se déclare catholique et la moitié se déclare protestante. Donc vous avez d'autres religions, des religions traditionnelles et des sans-religions, mais globalement, vous avez, quand on est en Angola, j'imagine que dans d'autres pays que vous connaissez ici, ça doit être un peu pareil, les personnes globalement sont religieuses. C'est-à-dire, on peut parler de Dieu, les gens globalement sont croyants. Après, qu'est-ce qu'on met derrière ? Ça, c'est autre chose. Quelle est la réalité de la foi ? Ça, c'est souvent autre chose. Et puis, dans les mouvements dits protestants, vous avez toutes sortes d'églises. Donc, vous avez là, complètement en haut, ce qui paraît être une grande cathédrale. Alors, c'est la cathédrale des Tocoïstes. Alors, je ne sais pas si ça existe ailleurs qu'en Angola. Je crois que c'est un prophète angolais. C'est une église, ce qu'on appelle les églises africaines. Donc, vraiment né sur le continent africain et qui, au niveau de la théologie, c'est pas très simple de comprendre ce qu'ils croient réellement. En tout cas, ils ont un prophète qui a un enseignement un peu spécial et on peut un peu douter sur la réalité là, du christianisme. Et puis derrière, il y a beaucoup de gens chrétiens, mais qui continuent aussi à pratiquer d'autres choses que le christianisme. Remarquez que l'Angola est le seul pays, enfin à ma connaissance, à ne pas avoir légalisé l'islam. Donc, et même ils l'ont pas, il était légal à un moment donné et ils l'ont délégalisé entre guillemets. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les musulmans ont le droit en fait de pratiquer, dans les faits ils pratiquent quand même leur religion, mais ils n'ont pas le droit d'ouvrir des mosquées. Et l'islam était assez conquérant en Angola, bien qu'il n'ait aucune base. C'est-à-dire les seuls musulmans qu'il y a en Angola, ce sont les Africains d'Afrique de l'Ouest, surtout les commerçants qui viennent pour le commerce. Et donc, c'est eux les seuls musulmans. Mais par contre, il y a des pays musulmans qui ont investi, qui commencent à investir énormément d'argent, je pense comme dans pas mal de pays d'Afrique, pour provoquer des conversions. Là, ce que vous voyez peut-être pas, c'est une femme complètement voilée. Alors, ce qui est intéressant, c'est le contraste avec comment s'habillent normalement, entre guillemets, les Angolaises. Et là, ce contraste-là. Et on m'a dit... Donc des pasteurs m'ont dit qu'il y avait beaucoup de femmes angolaises « achetées », entre guillemets, c'est-à-dire elles épousent des musulmans parce qu'elles savent qu'elles vont recevoir beaucoup d'argent rien que pour épouser ce musulman-là, à vérifier. Ça, c'est le panorama religieux. Donc moi, je vais en Afrique avec les cours bibliques par correspondance Emmaüs. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que ces cours bibliques ? C'est des cours qui ont été créés en 1942, donc ils sont vieux. Ils étaient en langue anglaise et ils ont été créés par un institut qui s'appelle l'Institut biblique Emmaüs, qui se situe aux États-Unis. Et cet institut s'est aperçu qu'il y avait vraiment besoin, notamment les missionnaires qui étaient un peu partout dans le monde, avaient besoin de soutien au niveau pour la formation des différentes personnes dans les églises naissantes. Et donc ils ont créé des cours par correspondance pour que ils puissent être suivis en Afrique, progressivement en Afrique entre autres. Ils ont été traduits dans plus de 120 langues et ils sont distribués dans 100 pays dans le monde. L'objectif à la base, c'était plus la formation des personnes déjà converties, mais de plus en plus, on l'utilise pour l'évangélisation. Donc il y a des cours assez basiques sur qu'est-ce que dit la Bible, qui résument un petit peu ce que dit la Bible et qui permettent l'évangélisation. Donc comment est-ce que ça fonctionne ? Moi, je travaille en fait avec une mission qui s'appelle la ZAM, c'est une mission allemande, donc là il faut suivre pour les nationalités, c'est la Central Africa Mission, c'est-à-dire la mission d'Afrique centrale. Et leur fonctionnement, au départ, ils envoyaient des cours bibliques en Afrique, les personnes faisaient les cours bibliques, donc il y a un petit examen à la fin pour voir si on a bien fait le cours, et ils renvoyaient le cours en Allemagne pour être corrigé. Sauf que je ne sais pas comment c'est dans les autres pays africains, mais en Angola, envoyé par la poste, c'est très compliqué. Que ça arrive en Allemagne, que ça soit corrigé en Allemagne, puis que ça revienne en Angola, il y avait plein de cours qui se perdaient, donc ça ne permettait pas de diffuser les cours de manière très... Donc ce qu'ils ont fait maintenant, c'est qu'un certain nombre... Ils envoient les cours en Angola, les cours sont faits par les Angolais et sont corrigés par des Angolais. Une fois qu'une personne a fait tous les cours, c'est-à-dire 12 cours, elle peut, si elle le souhaite, ouvrir ce qu'elle appelle un centre, c'est elle en fait le centre, et elle diffuse les cours aux personnes qui sont motivées. Elle devient correctrice. Ça fait plein de petites cellules, ça fait qu'on a plein de petits centres qui corrigent à chaque fois et qui demandent à l'Allemagne le nombre de cours dont ils ont besoin. Ça fait que de cette manière-là, ça s'est énormément diffusé. C'est diffusé bien sûr dans les églises en premier lieu, donc toutes les églises. On ne regarde pas la dénomination. Mais si une église est intéressée, elle peut prendre les cours et les faire. On pense que ça fera progresser les personnes dans l'église, que ça fera progresser le peuple de Dieu dans son ensemble. Et on voit même de l'église dont je vous parlais, l'église tocoïste. Donc, des pasteurs tocoïstes ont demandé à avoir les cours. C'est super. Même si... on ne comprend pas parce que leur théologie n'est pas tellement la même que dans les cours, mais en tout cas, si leurs fidèles ont accès à ces cours, c'est vraiment une super occasion de toucher dans un peu tous les milieux. C'est diffusé dans les écoles, ça c'est surtout au Congo. Alors au Congo, Kinshasa, ils ont une super opportunité, il y a des cours de religion, et du coup dans ces cours de religion, les écoles publiques ont demandé à avoir ces cours pour faire faire aux élèves. Donc le Congo est plus ouvert que l'Angola. L'Angola a un passé bien marxiste, donc de contrôle un peu plus des religions. Donc ça, ce n'est pas encore possible en Angola. Par contre, ça se fait beaucoup en prison. Vous avez énormément de gens qui font ces cours en prison. Donc les cours Emmaüs en Angola. Ça, c'est pour vous présenter un petit peu plus comment ça s'est passé en Angola. Donc, en fait, durant la guerre civile, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de gens qui sont partis. C'était le cas du pasteur Alberto Diazzi. Alors, vous ne voyez pas très bien. Ah oui, forcément, tous les visages, là, c'est impossible de voir. Bon, en tout cas, vous avez le pasteur Alberto Diazzi et le pasteur Bernardo Marquez. D'ailleurs, le pasteur Gabriel aussi. Donc, trois des quatre personnes qui sont là. Ils sont partis, ils ont fui, en fait, leurs parents ont fui au Congo. Donc, ils ont grandi au Congo, ils sont allés à l'école au Congo. Donc, ils parlent mieux le français, le lingala et le bakongo, d'ailleurs, souvent que le portugais. Et là-bas, ils se sont convertis. Donc, raconter toute leur histoire, ça serait... j'ai dit au pasteur Bernardo en particulier qu'il devait écrire un livre parce que c'est vraiment des témoignages très, très forts puisque lui, il était vraiment dans la rue avec rien du tout. Et ils ont trouvé le Seigneur là-bas. Ils sont revenus quand l'Angola est allée mieux après 2002. Et ils avaient trouvé les cours Emmaüs là-bas, ils les ont faits, ils les ont aimés, ils les ont rapportés en Angola. Et là, ils ont commencé à les diffuser dans leurs églises. Sauf que les cours étaient en français. Et donc, progressivement, ces églises où, comme c'était la plupart étaient des gens qui s'étaient convertis au Congo, c'était des églises où tous les cultes étaient en français et lingala. Progressivement, les églises essayent de s'intégrer en Angola et essayent de passer au portugais. Et donc, il a fallu traduire, en fait, ces cours. C'est là que moi, j'entrerai en jeu. C'est là qu'on est venu me contacter pour traduire certains des cours. Et donc, actuellement, le pasteur Alberto Diazzi, que vous ne voyez toujours pas, mais que je vous montre quand même, c'est lui qui est le coordinateur central. Donc, il s'occupe de recenser un petit peu qui a besoin de cours, à quel endroit, chaque province, combien ils ont besoin de cours. Les cours, ils arrivent, ils sont envoyés de l'Allemagne. Donc, l'Allemagne, en fait, elle finance... Qu'est-ce qu'elle finance ? Elle paye l'impression des cours. simplement. Comment elle fait pour faire ça? Ben, c'est les dons des différentes églises qui soutiennent cette mission. Avec ces dons, ils impriment gratuitement et ils payent l'acheminement jusqu'en Angola. En Angola, vous avez un dépositeur qui est le pasteur Gabriel qui récupère ses cours et qui les distribue un peu partout. Le plus diffusé, c'est à Luanda pour l'instant, où il y a le plus de gens qui font ces cours. Mais on a atteint plusieurs provinces. Pour l'instant, je crois qu'il y a une petite dizaine de provinces où il y a des différentes églises et différents lieux où ils font ces cours. Et ce que j'aimerais souligner simplement, ce qui me rend, par rapport à ces hommes-là, ça m'impressionne toujours beaucoup, le dévouement, parce qu'en fait, c'est des gens qui sont pasteurs et qui sont à plein temps et qui souvent vivent en fait avec le salaire de leurs épouses. C'est-à-dire, forcément, les églises ne sont pas assez riches pour payer un pasteur, ou en tout cas ne donnent peut-être pas énormément au pasteur. Et donc, du coup, c'est parce que les épouses travaillent souvent qu'ils peuvent vivre à plein temps, en tout cas, servir à plein temps. Mais même comme ça, par rapport aux cours, ils prennent beaucoup de leur temps, ils prennent beaucoup de leur argent personnel pour diffuser les cours. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils vont les amener très très loin, ben, il faut payer un voyage. Et ce n'est pas aussi simple qu'en France, et ça coûte aussi parfois très cher. Donc, à chaque fois, je suis touché par le dévouement de ces personnes qui... ont trouvé quelque part que les choses étaient bonnes et qui ont envie de les diffuser, même si ça peut leur coûter. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi est une grande leçon, quoi. Parce que nous, on n'est pas tellement, en tout cas moi, hein, je suis pas tellement dans le sacrifice. En tout cas, il y a tellement de fois où on donne comme dans la Bible, hein, on donne de notre superflu, mais le nécessaire. Bon, en tout cas, c'est une leçon pour moi. Alors, ma collaboration avec Emmaüs, elle commence en 2011, où vous avez... ça, c'est une photo pour montrer tous les responsables de toutes les provinces, en fait, d'Angola. Et voilà. Donc ça, c'était un séminaire cette année qu'on a fait pour se rencontrer. Donc c'était la première fois que je les rencontrais tous. Ils avaient fait tous le voyage jusqu'à Luanda. Et ils ont pu me parler des difficultés qu'ils avaient aussi, ce qui fonctionnait bien, ce qui fonctionnait moins bien. Donc, ma collaboration avec Emmaüs, je disais, elle a commencé en 2011. En fait, c'est ce frère-là, Herbert Martin, c'est un Allemand, donc il travaille avec cette fameuse mission allemande dont j'ai parlé. Il avait entendu parler qu'il y avait un jeune, donc c'était moi à l'époque, qui était allé en Angola déjà en 2005. Et par un frère de mon église de Bordeaux, qui m'avait soutenu. Et du coup, ça faisait longtemps qu'ils s'étaient dit « Ah, ça serait intéressant » parce qu'ils avaient déjà des pistes pour commencer à diffuser les cours Emmaüs en Angola. Et quand vraiment ils se sont dit « Non, maintenant, ça, c'est plus possible de continuer en français en Angola, il faut faire en portugais », là, il est venu me trouver. Il est venu nous voir ici à Rouen. Et en 2013, donc il nous a d'abord dit de bien réfléchir à ça, à remettre ça en prière, et ça correspondait un peu à, j'y reviendrai un peu plus dans mon témoignage après, mais ça correspondait exactement à quelque chose qu'on avait demandé à Dieu. Et du coup, en 2013, il m'a invité à l'accompagner pour rencontrer les collaborateurs sur place. Ça faisait déjà 2 ans que je traduisais les cours ici en France, mais sans être jamais allé en Afrique. Alors, je pense sa technique, en fait, à lui, c'est qu'il ne m'a jamais dit quelque chose ou « Viens avec moi, je veux que tu prennes ma place un peu en Angola. » Mais progressivement, il m'abandonne. C'est-à-dire, la première année, il m'a invité, donc il est resté avec moi plusieurs jours, etc. La deuxième année, en 2014, donc il m'a demandé si j'allais y retourner. J'ai dit que oui, pourquoi pas. Et là, il est venu, mais juste 2 jours de passage comme ça. Il m'a laissé quasiment tout seul. Et la troisième année, il ne m'a rien dit. Il m'a dit « Alors, tu y vas ou pas ?» Et puis, donc voilà, il m'a laissé « tomber », entre guillemets. Mais ce n'est pas tombé. Hein. Je sais qu'il prie pour moi. Moi-même, je prie pour lui. Lui, il est le responsable des cours Emmaüs pour toute l'Afrique francophone, donc notamment le Congo. Donc, il voyage énormément. Donc, l'Angola, ça faisait beaucoup pour lui. En tout cas... qu'est-ce que je fais là-bas en Angola quand j'y vais? J'ai déjà partagé hein, pas mal avec certains, donc vous savez. Mais je vais pour encourager. Donc je vais dans les différentes églises où on m'amène pour présenter les cours Qu'est-ce que c'est que ces cours et pourquoi ça vaut la peine, donc en particulier auprès des pasteurs. Aussi, on encourage les collaborateurs et donc en général, on me demande de prêcher et d'enseigner dans les églises des collaborateurs, donc des visites de l'enseignement. Alors du coup, je me retrouve dans des situations un peu bizarres. Là, vous voyez la photo complètement en bas. Vous voyez pas très bien, mais en fait, c'est que des dames. Donc on m'a invité à prêcher à une réunion de dames. Donc de maman africaine dans une grande église, donc j'étais un peu bon, j'ai dit oui, mais j'ai dit peut-être je suis pas la personne la mieux adaptée pour prêcher à une réunion de maman africaine. En tout cas, je pense que le Saint-Esprit est puissant et peut permettre de qu'il y ait quelque chose quand même, même si je suis pas une maman africaine et que je suis pas complètement dans la réalité, leur réalité. Mais j'apprends aussi chaque année, et notamment quand j'ai entendu Herbert Martin prêcher, au début, les premières années qu'il est venu, je dis « Ah oui, c'est vrai, j'ai admiré parce que j'ai vu l'adaptation. Il a été missionnaire en Afrique, il connaît bien la réalité africaine, donc dans sa manière de prêcher, je vois qu'il a une manière de prêcher qui, en tout cas, qui me semble intéressante par rapport à cette réalité-là. » Et la dernière chose que je fais, c'est que les étudiants qui ont fini les cours reçoivent un petit diplôme. Et ça, c'est extrêmement important. Alors pour moi, ça ne me paraît pas important parce que je me dis l'essentiel, c'est les cours. C'est ce qu'on va apprendre à travers les cours. Mais quand même, la plupart des gens, l'essentiel, c'est d'avoir un diplôme. Dans un pays où il y a très peu d'études, où il y a très peu de reconnaissance, où il y a très peu de gens qui vont aller à l'université, avoir un petit diplôme qui dit « j'ai fait une série de 12 cours », c'est quelque chose de fondamental. Et donc, c'est vraiment la grosse fête. Donc, cette année, dans une église, c'était, j'étais impressionné parce que j'avais l'impression d'être à la fin d'une année académique dans une grande université quand on a remis les diplômes. Et c'était vraiment du délire, mais du bon délire, j'ai envie de dire. Donc, voilà, ce que je fais, c'est que je donne donc le diplôme officiellement. Et donc, ça constitue aussi un des moments clés à chaque fois du voyage, je fais des cérémonies de remise de diplôme, là où on m'invite à les faire. Alors, pour vous donner un petit peu, pour terminer, ça c'était surtout pour vous présenter un petit peu l'Angola, ce que j'y fais, etc. Et j'aimerais donner un petit peu un témoignage sur... oui, comment Dieu m'a touché, comment Dieu m'a parlé, comment il m'a conduit jusque-là. En fait, ce témoignage, vous le connaissez déjà en grande partie, puisque... pour ceux qui étaient là, quand je suis devenu membre, j'avais donné mon témoignage et je pense que j'en ai parlé en grande partie. Une autre fois, j'avais prêché et c'était sur l'appel. J'avais parlé aussi de mon témoignage, donc probablement vous le connaissez. Donc je suis désolé si je me répète un petit peu. Mais peut-être vous savez ou vous ne savez pas, donc je suis professeur de portugais aujourd'hui et j'ai découvert le portugais par hasard, puisque j'avais fait anglais-allemand à l'école. Et quand j'ai commencé mes études universitaires, je me suis dit je vais faire une autre langue et je me suis dit j'ai déjà l'anglais, l'allemand, je vais faire de l'espagnol. Je suis allé à la bibliothèque, il n'y avait pas l'espagnol, donc j'ai pris la méthode qui était à côté, c'était le portugais. Bon, donc hasard, mais les hasards dans la vie, parfois ça conduit vers des choses et après coup on se dit ah, le hasard a un grand H. Et à la fin de mes études, je me suis posé beaucoup de questions. Je ne savais pas si je devais continuer. J'avais fait des études de relations internationales, alors je me suis dit, est-ce que je continue là? Est-ce que je fais une thèse là? Ou est-ce que ça m'intéressait d'être prof déjà? Donc, pourquoi pas essayer d'être prof de portugais? Et donc, j'ai remis ça à Dieu. Et j'ai téléphoné à une prof de portugais pour avoir des renseignements sur ce concours de prof de portugais parce qu'il n'est quand même pas très diffusé. Et elle m'a dit « Non, mais vous ne posez même pas la question parce que de toute façon, il est fermé cette année. » Ah, bon. Bah, une première porte fermée. Ensuite, j'ai dit à Dieu « Seigneur, si tu me donnes la bourse de thèse, alors ça voudra dire que pour moi, je dois faire cette thèse. Si je ne l'ai pas, ça veut dire que je dois considérer autre chose, que je vais prendre un temps pour voir ce que c'est que la mission à l'étranger. » Et donc, vous l'aurez deviné, je n'ai pas eu la bourse de thèse. Et donc, j'ai commencé à chercher un peu dans quelle mission je pourrais m'impliquer. Ça n'a pas été très simple, puisque pour mes parents, c'était un peu, en particulier pour mon père, il avait énormément investi dans mes études, investi pas au niveau financier, mais au niveau émotionnel. Il voulait que son fils fasse... il était content des études que son fils faisait, on va dire. Et donc, le fait que j'arrive à la maison, « Bon, papa, maman, finalement, je ne continue pas mes études, mais je vais probablement partir. Ça a été l'effondrement total. Et donc, quand on dit la sagesse est dans le grand nombre des conseillers, c'est un verset biblique, hein, c'est à la fois vrai et à la fois, c'est comme les proverbes, ça dépend des circonstances. Et j'ai consulté tellement de personnes et tellement de gens vous disent dans un sens, dans l'autre, et finalement vous vous êtes complètement perdu, vous ne savez pas du tout ce qu'il faut dire. Mais le Seigneur permet que des portes se ferment et que d'autres portes s'ouvrent. Et quand j'ai eu un petit emploi qui m'a permis de payer, j'ai eu aussi mon église qui m'a soutenu, hein, qui m'a dit on te soutient pour ce voyage. Donc ça, ça a été une grande joie. Et c'est comme ça que je suis parti. J'ai fini par atterrir en Angola et j'ai passé là-bas 5 mois comme prof. Et quand je suis revenu, donc c'était avec une mission chrétienne, quand je suis revenu, j'ai dit je veux retourner en Angola. Je vais me former en France et je repartirai. Et bien sûr, je priais Dieu pour savoir si c'était sa volonté. Mais en fait, ici en France, les choses se sont passées différemment. En tout cas, pas forcément très différemment, mais pour le mieux. D'abord, j'ai passé mon concours. Je suis devenu prof de portugais à ce moment-là. J'ai rencontré Caro sur Paris. Et donc, ça a changé aussi la vision. Mais dès que j'ai rencontré Caro, je lui avais dit... entre autres, que mon désir, c'était pour repartir, pourquoi pas, en Afrique. Et d'ailleurs, elle m'a toujours soutenu pour ça. Donc, le Seigneur savait que j'avais besoin, en fait, de Caro, que j'avais besoin de quelqu'un dans ma vie qui serait aussi un des instruments de Dieu pour me montrer sa grâce. Et ça, c'est ce que Caro a été pour moi, ce qu'elle est toujours encore. Donc, voilà, merci Seigneur de m'avoir ramené en France et de m'avoir fait rencontrer. Mais j'avais toujours sur le cœur, donc ensuite je suis devenu prof. Et donc on m'a envoyé, donc vous connaissez comment c'est l'éducation nationale, vous faites 50 vœux, donc j'avais mis toute la France entière, moins la partie nord. Et j'ai été envoyé à Rouen, donc pas du tout, je connaissais pas la Normandie, c'était pas ma région, j'avais pas spécialement envie d'y aller, mais bon, en même temps on était fiancés. Caro habitait Paris, Rouen, je me suis dit c'est pas trop loin, bon voilà, on va voir. Et la prière que j'ai vraiment fait à Dieu, c'est Seigneur, j'aimerais partir, mais je suis prêt à rester. Si tu veux qu'on reste ici sur Rouen, bon, ben voilà. Il y a eu un moment donné, j'ai dû abandonner et dire, ok, ce que tu voudras toi, peut-être le mieux ça sera Rouen et peut-être il y aura des choses magnifiques à Rouen, et il y en a eu, et il y en a toujours, puisque vous êtes tous là. Donc vous êtes des choses magnifiques qui nous sommes arrivées aussi. Et c'est là qu'en 2011, dans ce contexte-là, que Herbert, dont je vous ai déjà parlé, est venu nous trouver. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit ? On a besoin de quelqu'un en Angola, mais pas pour y aller, dans un premier temps en tout cas, mais juste pour des traductions, avec peut-être des voyages à faire pour visiter. Et ça, c'était vraiment une réponse magnifique, parce que j'avais envie d'y retourner. Je pensais d'ailleurs, à un moment donné, j'avais fait une croix dessus, je me dis, je ne vais jamais y retourner. Et non, Dieu a permis que je puisse y retourner, et ça correspond bien à notre volonté pour l'instant, d'être en France, parce que ça, c'est quand même une situation plus facile, et en même temps de pouvoir avoir ce contact là-bas. Et donc, c'est comme ça qu'en 2013, j'ai pu retourner non seulement en Angola, mais en plus, le Seigneur m'a fait la grâce de pouvoir retourner dans la ville où j'avais travaillé la première fois et où j'avais des amis où je pensais vraiment plus jamais les revoir. Et j'ai même pu loger dans la maison de mon meilleur ami de là-bas. Donc pour moi, c'était vraiment un cadeau de Dieu, quoi. Je me suis dit, je ne pensais pas, et tu permets, d'une autre manière que ce que j'avais pensé, tu permets que j'y sois de nouveau. Alors... j'ai pris ça comme une vraie bénédiction de Dieu, ces voyages en Angola. Mais, et vous le savez, cette année, avant de partir, c'est chaque fois un défi, ces voyages. Et chaque fois, il y a des tentations. C'est-à-dire, la tentation, c'est se dire, mais pourquoi retourner là-bas ? De toute façon, tu n'es pas adapté. De toute façon, ce n'est pas ta culture. Tu ferais bien mieux de rester en France. Tu serais beaucoup plus tranquille à passer tes vacances ici que d'aller là-bas pour te fatiguer, etc. C'est Satan, hein, qui veut toujours nous détourner, trouver des choses plus faciles à faire. En plus, c'est compliqué. En plus, tu risques des maladies. Tu serais bien mieux ici. Et ta femme, en plus, elle est enceinte cette année. Donc, beaucoup de doutes à chaque fois. Et bon, je pense que déjà, en tant que personne, je suis quelqu'un qui doute énormément, qui me pose énormément de questions. Mais le Seigneur a soin même de ceux qui doutent. Hein, il a pris soin d'un Thomas, alors il va prendre soin aussi d'un Stéphane. Et peut-être si vous êtes dans le même cas que moi, il prendra aussi soin de vous et il vous donnera les certitudes qu'il veut donner à chacun. Et chaque année, il m'a donné des versets, et c'est ces versets-là que j'aimerais simplement partager pour m'encourager. Le premier verset qu'il m'a donné pour m'encourager, c'était Romains 1. Quand je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas ? Romains 1, versets 11 à 12. C'est l'apôtre Paul qui parle en fait aux Romains et il leur parle du but de son voyage. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Ce qui m'a touché là, c'est que l'apôtre Paul, il y va pour, dans le but d'affermir les Romains. Mais il sait qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va être encouragé par la foi des Romains. Et il sait que le fait de donner, il va recevoir quelque chose aussi. Je veux que vous soyez affermis, mais plutôt, encore plus, que nous soyons encouragés ensemble. Et ça, vraiment, c'est ce que le Seigneur m'a montré. Quand je vais en Afrique, finalement, c'est comme si le Seigneur me faisait faire un stage de 10 jours où vraiment il me prend, paf. Et là, il m'apprend des choses et je suis encouragé, en fait, par la foi qui est dans mes frères et sœurs là-bas en Angola. Et vraiment, j'ai pu vivre ce verset et c'est pour ça que je remercie Dieu. Le deuxième verset, c'est un frère qui me l'a envoyé par SMS. Si le Seigneur vous met à cœur des versets comme ça, je pense qu'il faut les envoyer aux gens s'ils sont bien adaptés. En tout cas, moi, j'ai reçu un SMS d'un frère et j'ai beaucoup aimé ce verset, c'était Marc 13, verset 11. Alors, il ne m'a pas envoyé la totalité du verset, et heureusement, parce que ça m'aurait inquiété. Non, mais je l'avais peut-être lu en entier. Mais le 13, verset 11, il m'avait envoyé juste la deuxième moitié du verset. Je vais le lire en entier. 13, verset 11. « Quand on vous emmènera pour vous livrer... Ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. » Et donc le frère, il m'avait envoyé la partie du verset. « Ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même. » Alors, je n'ai pas connu la persécution là-bas, hein, au contraire. Je suis très bien accueilli. Mais j'ai fait l'expérience que vraiment... le Saint-Esprit peut nous donner quelque chose sur un moment qu'on n'avait pas forcément prévu. Alors j'y vais maintenant à chaque fois en prévoyant un certain nombre de prêches, un certain nombre de choses que je pense dire. Et la première année, je n'étais pas trop briefé sur ce qui allait se passer. Donc la première année, comme on m'avait invité pour accompagner un frère, je me disais, je vais être l'accompagnateur un peu partout. Bon, je m'étais dit, bon, peut-être on pourrait quand même me demander de prêcher, il faut quand même que je me prépare au cas où. J'avais préparé un prêche. Et donc, premier jour, j'arrive, bien sûr, on m'a demandé de prêcher. Bon, pas grave, je prêche. Et le lendemain, une réunion avec des pasteurs, des personnes beaucoup plus âgées que moi, tous en rond, etc. Et donc là, on me donne un petit coup de coude. Donc, après, c'est toi hein, qui va donner le message, là. Et là, j'ai dit, oh, je ne pouvais pas reprendre le même prêche parce que les gens étaient déjà là le jour d'avant. Alors là, ça a été la panique. Donc j'ai prié dans ma tête, mais vraiment, oh, Seigneur, mais donne-moi quelque chose là, donne-moi quelque chose, parce que qu'est-ce que je vais dire ? Et vraiment, donc j'ai dit quelque chose, et les frères angolais qui étaient avec moi m'ont dit, on aimerait bien que ça soit ça que tu redonnes dans les différents endroits où tu vas passer. Ce n'était pas ce que j'avais prévu. Bien sûr, ça ne venait pas de nulle part, c'était des versets que j'avais lus avant de venir, que je n'avais pas forcément préparés de manière bien cadrée. Mais en tout cas, c'est ça que le Seigneur m'a rappelé à ce moment-là pour me faire le dire. Et cette année encore, donc si vous connaissez l'Afrique aussi, vous savez qu'il y a toujours des imprévus, qu'il y a un plan, mais qu'il y a ce qui arrive en vrai et qu'en en fait, le plan, on ne le fait pas forcément. Et donc cette année, pareil, je suis arrivé. Donc cette année, j'avais préparé 4 ou 5 prêches. Mais Je suis arrivé et le premier jour, donc on s'assoit dans la maison d'un pasteur et me dit donc avant que tu ailles prêcher dans une autre église, on va venir dans mon église là parce qu'il va y avoir un séminaire et donc tu vas faire l'introduction du séminaire et le thème du séminaire c'est « Dis seulement un mot ». Alors de nouveau c'était mais comment je vais pouvoir introduire un séminaire que je n'ai pas préparé sur un thème que je n'ai pas préparé avec juste cette phrase « dis seulement un mot ». Bon, je pense que le Seigneur dirige à chaque fois. Si c'était bien, je ne sais pas, mais je sais que le Saint-Esprit peut prendre des choses qu'on a dit ici, là, et permettre quand même que ça touche aussi les cœurs. Et le dernier passage que je voulais vous lire, qui m'a touché l'an dernier, c'était 2 Timothée. 2 Timothée 7. 2 Timothée 7, il n'y a pas de chapitre 7, c'est pour voir si vous suiviez. 2 Timothée 1. Et juste lire des versets 1 à 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant les temps éternels, et qui a été manifesté maintenant par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Alors j'avais choisi de prêcher l'an dernier sur 2 Timothée, 1 et 2 Timothée, et une fois pendant un culte, comme souvent ça peut m'arriver, enfin au début du culte, juste avant le moment où je devais prêcher, j'ai été accablé de doutes, en me disant, mais vraiment, 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 qu'est-ce que je fiche là? Je suis totalement inadapté à la situation. Vraiment, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je peux transmettre dans cette église? Je ne sais pas. Et là, le Seigneur m'a rappelé un des versets, celui-ci. Car nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Autrement dit, toi, tu te sens timide, tu te sens faible, tu ne sais pas ce que tu vas dire. Mais l'Esprit qui est en toi, lui, il va parler. Lui, il va parler et il va le faire avec puissance. Parce qu'en lui, il y a la force, c'est le Dieu puissant qui connaît toutes les personnes qui sont là présentes. En lui, il y a l'amour. Cet Esprit, il les aime. Toi, tu ne les connais pas, mais cet Esprit, il les aime. Et en lui, il y a la sagesse. Il y a d'autres traductions qui disent le bon sens. Cet esprit, il va te dire les paroles, il va mettre des paroles qui sont adaptées à ces personnes qui sont là. Et ça m'a rassuré, parce qu'on se dit, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas notre œuvre. Et ça, on peut s'en souvenir aussi chacun de nous. On a reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse en nous. Alors si on doute, si on ne sait plus, on sait qu'on a cet esprit-là en nous. Et Paul est en train de parler à Timothée qui pouvait avoir peur parfois de parler. Et il lui rappelle pourquoi il faut qu'il parle. Et il y a quand même des très belles raisons pour lesquelles il doit parler. Comment est-ce qu'il peut parler? Il peut parler par la puissance de Dieu. Et comment elle s'est manifestée cette puissance? C'est par le salut qu'il nous a donné. Attends, il t'a sauvé. Qu'est-ce qui est de plus merveilleux que ça? Qu'est-ce qui est de plus puissant que ça? T'étais tellement loin, t'étais tellement petit, t'étais tellement faible. Et c'est mon cas. Et quand je regarde à tous les péchés que j'ai commis et toutes les horreurs de ma vie, qu'est-ce qui fait que je sois là devant? Mais si je parle, c'est par la puissance de Dieu, parce qu'il nous a sauvés. Il nous a adressé un appel. Et cet appel, je ne sais pas si vous avez vu là dans Timothée, pas à cause de ce qu'on a fait, pas à cause de ce que tu es, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, avant même que j'existe, il m'avait déjà appelé. Avant même que j'existe, il savait déjà que j'allais parler. Avant même que tu existes, il savait déjà qu'il voulait te sauver, que tu allais accepter ce salut. Il t'a appelé dès les temps éternels. C'est un salut immense. C'est à cause de ça qu'il faut qu'on parle. Et ce salut, dit Paul encore là, il a été manifesté à la fin par une personne, par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il a manifesté cette puissance comment ? En nous donnant la vie éternelle. Il a réduit la mort à l'impuissance et nous a donné, il a mis en évidence l'immortalité. Bon, ben, c'est ce que disait Paul à Timothée pour l'encourager à ne pas se taire, à parler. Non seulement tu es sauvé, Jésus-Christ a manifesté la puissance de la vie et tout ça, c'est en toi par l'Esprit de Dieu qui va agir. Alors, je pense que c'est un encouragement, ça a été un encouragement très fort pour moi et je pense que c'est un encouragement que j'aimerais aussi vous laisser ce matin. Et puis, une dernière chose pour terminer, c'est les sujets de prière. Parce qu'en fait, tout n'est vraiment pas rose. Donc, bien sûr, le sujet de prière numéro un, c'est que ces cours ils puissent servir pour l'avancement de l'Évangile. Ce qui est beau, c'est qu'il y a des personnes qui les font. Parfois, on se demande pourquoi elles les font. Il y a un pasteur qui me disait, il y a à quelqu'un auquel il donnait un cours, il lui a dit, mais comment tu as connu ces... Enfin, pourquoi tu fais ces cours? Tu les fais avec quelle église? Et le gars lui a dit, non, je ne les fais pas avec une église. En fait, j'ai un collègue, je ne sais plus si c'était dans une école ou dans une entreprise par contre, j'ai un collègue qui faisait les cours pendant son temps libre. Et du coup, je me suis dit, ah tiens, j'ai envie de les faire aussi. C'est quelqu'un qui faisait partie d'aucune église et simplement qui a fait les cours pour connaître un peu plus ce que disait la Bible. Donc, il faut prier pour que ça touche vraiment le cœur des personnes, que ça soit pas simplement, ça fasse pas des têtes bien pleines. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y a aussi des gens qui font des cours juste pour avoir le diplôme et dire après à leur pasteur, moi j'ai un diplôme, bon. Mais pour que vraiment ça transforme les vies en profondeur. J'ai besoin des prières aussi pour les traductions, parce qu'en fait c'est long et ça peut être très fastidieux, c'est-à-dire prendre du temps pour traduire des livres, bon, ça me demande une discipline que je n'ai pas toujours. Bon, cette année le Seigneur m'a forcé parce que j'ai un emploi du temps avec plein de trous partout. Donc du coup, je suis obligé de rester travailler dans mon lycée. Et bon voilà, comme ça, je suis forcé de faire les traductions. Mais j'ai besoin de vos prières pour continuer et avoir la sagesse pour savoir comment traduire. Je ne suis pas seul, en fait, il y a une sœur portugaise. C'était une de mes prières et Dieu m'a exaucé aussi il y a 2 ans. Maintenant, j'ai une sœur portugaise qui relit les cours. Et ça, c'est essentiel parce que c'est quand même pas ma langue maternelle. Donc c'est essentiel d'avoir quelqu'un comme ça. Donc priez pour ça. Priez pour l'acheminement. En fait, il y a des gros blocages cette année. Les cours n'arrivent plus. Il y a des problèmes, ce serait trop long de tout expliquer et parfois ça vient même de chrétiens, parfois ces blocages, en tout cas pour que les cours continuent à être diffusés. Priez aussi pour l'unité entre les chrétiens et ça vraiment je pense que c'est quelque chose auquel il faut qu'on soit attentif parce que Satan essaye de diviser et moi je le vois là dans ces cours aussi là, je vois dans ce travail qu'il peut y avoir des tensions entre les collaborateurs, des jalousies, des amertumes, du pardon non prononcé, etc. Et ça, c'est quelque chose qui détruit une œuvre de manière très, 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 très rapide. Et puis, bien sûr, je pense qu'on peut prier, on prie déjà pour le Gabon, parce qu'on a beaucoup de Gabonais ici. Priez aussi pour l'Angola, qui en fait connaît ou va connaître, si le Seigneur n'est pas revenu, une situation qui risque d'être très semblable au Gabon, avec la situation économique, je ne sais pas comment elle est au Gabon, mais très mauvaise en ce moment en Angola. Et puis la situation politique, pour que ça se maintienne. Les gens vont beaucoup, de plus en plus à l'église, grâce à la crise, entre guillemets, mais aussi ils cherchent tout et n'importe quoi. Donc, y a des croisades, des prophètes machin et des prophétesses trucs, où dessus, en gros, c'est marqué, donc, venez et vous recevrez la bénédiction de Dieu, mais la bénédiction matérielle. Hein. Donc, si vous voulez être riche, venez donner votre argent à prophète machin et vous aurez... Bon, je caricature, mais on le voit énormément en Angola. Et les gens, malheureusement, sont prêts un peu à tout pour récupérer. Et on les comprend. Quand on est dans un pays où c'est dur de vivre, on comprend qu'on puisse être prêt à croire presque n'importe qui nous promet « ça, ça va te donner de l'or, ça va te donner de l'argent », on comprend. Et d'ailleurs, ça a été un défi pour moi cette année quand je prêchais, chercher d'abord le royaume de Dieu. Et toutes ces choses, le vêtement et la nourriture, hein, toutes ces choses, vous seront données par-dessus. En fait, quand on est européen, qu'on va là-bas 10 jours, qu'on rentre ensuite bien dans son pays, et ça va, on a à manger et tout, c'est facile hein, de prêcher ça. Mais de croire vraiment, Seigneur, si tu l'as dit, c'est vrai pour l'Angola et c'est vrai pour tous les pays partout où les tiens sont. Si on cherche d'abord, toi, tu donnes en plus. Bon, c'est un autre défi. Voilà quelques petits sujets de prière. Et je vous remercie pour votre patience. Et je vous remercie aussi pour toutes les prières que vous avez fait monter devant Dieu. Je sais qu'elles ne sont pas inutiles. Vous avez vu qu'il y a des combats. Vous avez vu qu'il y a des doutes. Et je suis sûr que si Dieu m'a permis de surmonter ces doutes, c'est aussi parce qu'il y a des gens qui prient, parce qu'il y a des gens qui m'accompagnent dans la prière. Pour ça, je vous remercie beaucoup. Merci.